Il est 5h sur Europe 1.
Pas de formation de fruits et pas de développement de fruits. 200 ou 300 000 euros de perte de chiffre d'affaires pour notre entreprise, quoi.
Catastrophe pour les agriculteurs, le gel de ces derniers jours a fait des ravages. 80% du vignoble français est touché. Coup de froid diplomatique entre France et Algérie. La visite de Jean Castex prévue ce week-end est annulée à la demande d'Alger. Et puis quand une rupture amoureuse inspire une chanson, mais pas déprimante pour autant. On entendra Clara Luciani pour son nouvel album. Premier extrait aujourd'hui.
À suivre les sports, notre pressing du matin et puis les doigts dans l'assiette. Nous serons dans les Pyrénées-Orientales chez notre éleveur de porc. Bienvenue à tous.
Europe 1. Écoutez le monde changer.
Le gel s'est abattu sur la France cette semaine. On en a parlé, des records bas de température pour un mois d'avril ont même été battus hier matin. Julien de Normandie, le ministre de l'Agriculture, a annoncé l'activation de la calamité agricole afin de soutenir les agriculteurs touchés. Un exemple concret avec Caroline Baudry.
Des bouteilles de vin étiquetées 2021, Guilhem n'en remplira que très peu cette année. Après deux nuits de gel, ce viticulteur dans l'Hérault a perdu 95% de sa future récolte.
Alors quand vous vous réveillez, vous apercevez pas de grand chose puisque les vignes sont vertes. Mais parce qu'elles sont vertes, parce qu'elles sont congelées, tout simplement. Et puis au premier rayon du soleil, quand la glace se fond, bien, vous avez votre végétal qui devient tout marron, qui sèche tout simplement. Les cellules sont mortes, les cellules ont éclaté, elles se vident de leur eau.
Dans le Bordelais, 30 à 40% des vignes ont été frappées par le gel. Même constat pour les arbres fruitiers, beaucoup sont décimés, comme la moitié des pommiers et poiriers de Michel, agriculteur en Seine-et-Marne.
Il n'y aura pas de formation de fruits et pas de développement de fruits. 200 ou 300 000 euros de perte de chiffre d'affaires pour notre entreprise, quoi.
Certains craignaient de revivre le terrible gel de 2017. En fait, l'épisode de ces derniers jours a été plus intense et plus étendu, explique Jérôme Despé, secrétaire général de la FNSEA, premier syndicat agricole français.
Excepté la Corse, quand j'ai fait le tour de France, je n'ai pas une région qui n'est pas concernée par cet épisode donc de gel. Il y a plusieurs milliers d'hectares qui sont touchés avec des pertes à 100%.
La FNSEA qui est encore en train de recenser les dégâts alors qu'un autre épisode de gel est redouté en début de semaine prochaine.
Caroline Baudry.
On n'en a pas tous les jours, alors on va s'en réjouir. Une bonne nouvelle sur le front de la vaccination contre le Covid. L'annonce a été faite hier par Jean Castex.
Le pays tout entier vient de franchir les 10 millions de personnes qui ont reçu une première vaccination.
10 millions, ça c'est fait. L'objectif, c'est désormais d'atteindre 20 millions de Français vaccinés le 15 mai et 30 millions le 15 juin. Anne Le Gall, comment va-t-on pouvoir tenir cette cadence ?
Alors on devrait la tenir grâce à la montée en puissance des livraisons de vaccins. En additionnant les doses des trois vaccins actuels et celles du vaccin Janssen qui arrivera dans 10 jours, la France devrait recevoir au total 15 millions de doses en mai et 28 millions en juin. 28 millions, c'est plus du double de nos livraisons du mois de mars. Alors côté logistique maintenant, pour tenir le nouvel objectif de 20 millions de Français vaccinés au 15 mai, il faudra injecter 250 000 doses par jour dans le mois qui vient, samedi compris. Ce qui semble tout à fait jouable puisqu'aujourd'hui, on arrive déjà à dépasser ce niveau plus de la moitié de la semaine. Ensuite, à partir de mi-mai, nous aurons normalement les doses pour vacciner 330 000 Français par jour, essentiellement dans des centres équipés de supercongélateurs, car Moderna et surtout Pfizer représenteront alors les deux tiers des livraisons et ils doivent se conserver ces vaccins à basse température. Si les laboratoires tiennent leurs engagements, 45% de la population française pourrait donc avoir reçu une première injection mi-juin.
Anne Le Gall, spécialiste santé d'Europe 1. On entendait le Premier ministre il y a un instant. Voilà que Jean Castex renonce à son voyage officiel en Algérie au moment même où la France tente un rapprochement diplomatique avec des gestes symboliques sur la relation historique entre les deux pays.
Ouais, officiellement, cette visite est annulée en raison de la crise sanitaire, Jean-Rémy Baudeau.
Oui, ce déplacement aurait dû être l'un des symboles du réchauffement des relations entre la France et l'Algérie, mais c'était sans compter sur le Covid. En temps normal, Paris et Alger se retrouvent régulièrement pour ce qu'on appelle un comité intergouvernemental de haut niveau, une sorte de réunion entre ministres pour discuter diplomatie, sécurité, contrat ou encore éducation. La dernière fois, c'était en 2017 à Paris et l'Algérie avait alors dépêché 8 ministres. Et c'est ce niveau que le pays attendait en retour ce week-end. Impossible à cause du Covid, a répondu Matignon, qui a proposé de venir avec un format plus restreint, quelques ministres importants, dont Bruno Le Maire et Jean-Yves Le Drian. Une délégation jugée insuffisante par les autorités algériennes, d'où cette annulation. Ça aurait été un autre pays, ça aurait été la même chose, plaide l'entourage de Jean Castex. À Paris, on refuse de laisser entendre que ce report illustre d'éventuelles difficultés avec Alger. Paris qui s'est lancé dans un travail de mémoire sur la guerre d'Algérie, qui a ouvert récemment ses archives. Mais manifestement, le nombre de ministres présents lors d'un déplacement conditionne encore beaucoup le dialogue entre les deux pays.
Jean-Rémy Baudeau du service politique d'Europe 1.
Revenons en France avec cette pratique qui a grandement accéléré ces derniers mois. On en parlait tout à l'heure, le vélo.
Le vélo et aussi, plus précisément, le vélo électrique. Vous faites peut-être partie de ces Français qui ont récemment abandonné les transports en commun ou la voiture et qui avaient investi. Confirmation en chiffres, les ventes se sont envolées en 2020. Maud Descamps.
Avec 500 000 vélos électriques vendus en France l'an dernier, la barre du milliard d'euros a été franchie pour la toute première fois. La crise Covid explique en partie cette très forte hausse des ventes. Le vélo électrique est une excellente alternative aux transports en commun. Il s'en est donc vendu 29% de plus qu'en 2019. Des vélos de plus en plus haut de gamme. Les Français ont dépensé en moyenne 2 079 euros pour s'équiper. Un budget en hausse de 20%, observe Jérôme Valentin, président de l'Union Sport et Cycle.
Il y a exactement deux phénomènes qui justifient cette augmentation de prix. Une augmentation du confort, une augmentation des options. Mais il y a un autre phénomène, la demande a été supérieure à l'offre en 2020. Ce qui a fait que nous n'avons pas du tout fait de promotion de vélos ou de prix barré.
Revers de la médaille, les ventes de vélos classiques ont-elles baissé, moins 3% l'an dernier, mais il s'en est tout de même vendu 2 200 000 en France.
Le boom du vélo, on en reparle donc à 5h40 avec le président de la Fédération française des usagers de la bicyclette, Olivier Schneider.
Comment les universités vont-elles sortir de la crise sanitaire? Il y a la lassitude des enseignants, le manque réel de moyens, le sous-financement de la recherche. L'Institut Montaigne, qui est un groupe de réflexion de centre-droit, fait des préconisations dans un rapport dévoilé hier. Et l'une d'entre elles est assez choc, Virginie Riva. Elle concerne la hausse des frais de scolarité.
Oui, passer de 170 à 900 euros pour s'inscrire en licence et de 243 à 1200 euros en master. Une proposition audacieuse. L'objectif, c'est d'augmenter les entrées financières des universités. Et pour compenser ce surcoût pour les étudiants, l'Institut propose de mettre en place des prêts innovants que les étudiants rembourseraient une fois entrés dans la vie active et selon leurs revenus. Autre préconisation, pour les universités qui le souhaitent, l'Institut Montaigne suggère qu'elles gèrent seules leur patrimoine immobilier, ce qui n'est pas le cas actuellement. L'inspiration de ce rapport est clairement à chercher du côté anglo-saxon. Les présidents d'universités doivent devenir, je cite, des entrepreneurs institutionnels, récupérer les prérogatives des CROUS et gérer seuls l'ensemble des aides sociales. Des aides qui devraient être augmentées à hauteur de 250 millions pour les étudiants les plus en difficulté. L'État n'est pas pour autant appelé à se désengager. Selon l'Institut, la France devrait au contraire augmenter ses efforts et consacrer 5% de son PIB à l'enseignement supérieur et à la recherche. C'est seulement 3,5% actuellement.
Virginie Riva, spécialiste éducation d'Europe.
Allez, on termine ce journal en musique. Elle avait cartonné avec son album Sainte Victoire. Clara Luciani est bientôt de retour.
Oui, son album Cœur sortira le 11 juin et 3 ans après avoir reçu 2 victoires de la musique, Clara Luciani nous dévoile un premier extrait, ça s'appelle Le Reste et Angèle Châtelier, a pu rencontrer la chanteuse pour Europe 1.
C'est une chanson de rupture, mais je la vois pas comme une chanson triste parce que finalement ça raconte l'histoire d'une femme qui dit écoute, tous nos échecs, ça je te les laisse et moi ce que je garde, c'est ce qui a été le plus beau de cette histoire, à savoir en fait une entente charnelle et ces plaisirs là quoi.
Le reste je te le laisse, mais je retiens en laisse les souvenirs émus de ton corps nu.
Comme cette chanson, vous dites que ce deuxième album à venir est plus adulte.
Je pense que je me sens un peu plus en phase avec moi-même. Je suis pas non plus une vieille dame, mais j'ai 3 ans de plus et quand on est dans la vingtaine, en fait, c'est des années qui sont hyper importantes. C'est juste une version peut-être plus assumée de ce que j'ai voulu faire déjà sur le premier album.
Je sais, j'ai tout péché.
Votre raison de vivre, Clara Luciani, c'est les concerts. Vous étiez d'ailleurs révélation scène de l'année 2019 aux Victoires de la Musique. Comment vous vous sentez depuis un an sans public?
Je me sens un peu dépossédée de ma fonction. Je tiens bon, mais j'ai espoir de remonter sur scène très très vite.
Le reste, je te le laisse. Le reste, je te le laisse.
Le reste, nouveau single de Clara Luciani qui sort aujourd'hui. Elle sera l'invitée ce soir sur Europe 1 d'Émilie Mazoyer dans Musique à 20h.
Et c'est tout ce qu'on lui souhaite, de remonter sur scène le plus vite possible, Clara Luciani. C'était le journal de François Geffrier, 5h10. Bonjour Léna Ekmenier.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Votre journal des sports avec à la une les qualifiés. Ça y est, on connaît tous les qualifiés pour les quarts de finale de la Coupe de France.
Le dernier 8e opposé hier soir, le Red Star à Lyon et les Franciliens qui ont donné du fil à retordre à l'OL.
mené 2-0 par les Lyonnais, eh bien le club de National a égalisé avant de s'incliner au tir au but. Mais ce n'est pas forcément ce que l'on retiendra. C'est l'ambiance, pas dans le stade Bauer évidemment, mais tout autour, avec des supporters donnant de la voix au balcon, des immeubles attenants. On a aussi entendu des pétards par-ci par-là pour la plus grande joie du président du Red Star, Patrice Haddad.
Les supporters n'étaient pas dans le stade aujourd'hui, mais ils étaient dans la ville et autour. Ils se sont mobilisés pour être tout autour du stade, dans les immeubles. C'est ça la particularité du Red Star. C'est populaire, ça vibre. Si on avait gagné, ça aurait été comme la finale de la Coupe du Monde ce soir. On est accompagné par des supporters qui aiment le foot, qui savent ce que c'est de mouiller le maillot sur le terrain. Ils aiment ça. Et c'est ce qu'ont fait nos joueurs.
Patrice Haddad avec Cyril de la Morinerie. Le tirage au sort des quarts a lieu ce soir. On rappelle que Paris, Monaco ou encore Angers sont qualifiés et qu'il reste deux petits poussés de National 2, le Canet en Roussillon et Rumilly. C'est également un club de National 2.
Lille ouvre les débats ce soir avec la réception de Metz. On parle de la 32e journée de Ligue 1.
Oui, l'occasion pour le LOSC de conforter sa place de leader du championnat. Les Lillois ont 3 points d'avance, vous le savez, désormais sur le Paris Saint-Germain qui ne jouera que demain, ce sera à Strasbourg.
Allez, on passe au tennis et c'est confirmé, Roland-Garros débutera bien le 30 mai.
Une semaine après la date initialement prévue, les organisateurs veulent se donner une chance d'avoir du public dans les gradins, même si aujourd'hui il est très difficile d'évoquer la moindre jauge de public. Écoutez, Amélie Oudéa-Castéra, c'est la numéro 2 de la Fédération française.
Le report du tournoi d'une semaine est apparu comme la solution la plus adaptée. Nous, on se réjouit évidemment que les autorités publiques aient pu maintenir les grands événements sportifs malgré les restrictions sanitaires. Mais notre objectif pour cette édition 21 de Roland-Garros, c'est évidemment de maximiser les chances que le tournoi puisse se jouer devant le plus grand nombre possible de spectateurs. À la fois pour les joueurs et les joueuses, mais aussi pour toute la communauté des passionnés, en garantissant évidemment la sécurité sanitaire de chacun. Donc je crois que nous créons un vrai contexte responsable pour essayer de faire bénéficier au plus grand monde la qualité du spectacle de cette future édition 2021 de notre tournoi.
Amélie Oudéa-Castéra, interrogée par Corinne Boulou.
Le chiffre du jour, eh bien c'est 8.
Nouveau chiffre bonheur dans la famille Griezmann qui annonçait hier la naissance de son 3e enfant, né donc le 8 avril. Exactement comme les deux aînés, ça promet des anniversaires plutôt animés.
Ils ont tous le même anniversaire.
Ouais. On n'oublie pas comme ça, c'est pratique.
Bon voilà, ils sont bien organisés chez les Griezmann. Et on les félicite, les Griezmann. Merci les Nike, à tout à l'heure. Allez les courses, il est temps de découvrir le pari gagnant de Thierry Léger. Bonjour Thierry.
Bonjour Sébastien, il y aura des courses cet après-midi sur l'hippodrome de Vincennes et mon pari gagnant sera le 603 Happy Story. Irrésistible lors de ses deux dernières victoires à Laval le 11 mars puis à Lisieux 13 jours plus tard, cette pouliche visiblement douée ne cesse de progresser à chacune de ses sorties. Plus elle court, meilleure elle est. Après avoir fait ses armes en province, elle va cet après-midi pour la première fois fouler la piste de Vincennes qui devrait lui convenir à merveille. Dès lors, il est légitime d'en attendre une nouvelle victoire. Notez bien, pour Vincennes, réunion 1 dans la 6e course, le numéro 3, Happy Story.
Merci Thierry Léger, à tout à l'heure pour les pronostics du Quintet. Europe 1. Il est 5h14 sur Europe 1, bon réveil. Merci de nous rejoindre dans le 5-7. On va ouvrir les journaux avec toute l'équipe. C'est l'heure du pressing. Ombline, qu'est-ce que vous avez lu ?
L'amour est dans le pré, ou dans la forêt, ou dans la montagne. Comment trouver une ou un partenaire de vie qui partage la même philosophie écolo ou vegan que vous ? Eh bien, il existe des sites de rencontres pour ça.
Spécialisé, maintenant c'est par catégorie.
Ah oui, puis ça fait un boom excellent. Il y a beaucoup de catégories, ouais. On va en parler.
Écoutez le monde changer. A tout de suite sur Europe 1.
Europe 1. Sébastien Krebs.
5h15 sur Europe 1, 10 millions de premières injections. Le cap est passé et même avec une semaine d'avance sur le calendrier prévu. Prochaines échéances, 20 millions de doses administrées mi-mai, 30 millions mi-juin. Voilà pour l'objectif. À l'Assemblée nationale, les débats sur l'euthanasie ont été interrompus hier, peu après minuit. La proposition de loi pour une fin de vie libre et choisie n'a donc pas pu être soumise au vote, faute de temps vu le nombre d'amendements à examiner. Un vol à main armé au Georges V, le palace parisien près des Champs-Élysées hier soir. Un homme casqué armé d'un pistolet a menacé deux employés puis a brisé des vitres de joaillerie avec une petite hache et emporté des bijoux. Et puis la formation des nouveaux policiers va être rallongée de 4 mois. Elle durera ainsi un an comme c'était le cas avant une réforme de 2016.
Europe 1.
Allez, c'est parti pour le pressing avec Ombline Roche et Martin Lange. On commence par notre coup d'œil aux unes de vos journaux et trois lettres un peu partout. E-N-A, Léna. Léna est morte. Vive Léna, c'est le titre de Libération. La fin d'un système pour aujourd'hui en France. Macron s'attaque à la fabrique des élites, explique Les Échos. Et à Strasbourg, la fin de l'énarchie. Voilà, c'est le titre des dernières nouvelles d'Alsace. L'épidémie aussi à la une et vos journaux qui tentent toujours de répondre aux questions sur les vaccins. Faut-il avoir peur d'AstraZeneca dans la Dépêche du Midi. Et une date en guise d'espoir, elle est dans la Voix du Nord ce matin, la date du 12 juin pour une réouverture totale des bars et des restaurants. Le journal publie le contenu d'un document de travail, le calendrier proposé au gouvernement par les syndicats de restaurateurs. Ouverture des terrasses entre le 15 et le 28 mai, de l'intérieur, mais avec une jauge limitée entre le 29 mai et le 11 juin. Et Libération totale à partir du 12 juin. On verra si ce calendrier tient. Et puis les conséquences du froid, terrible coup de gel dans Varmatin, les agriculteurs inquiets pour leur récolte, terrible gelée noire dans Midi Libre. Voici les trois histoires qui nous ont interpellés ce matin. Et Amblin, on parle donc de ces sites de rencontres très spécialisés.
Oui, recherche âme-sœur écolo. Après avoir vu ses rayons se multiplier dans les supermarchés, le bio atteint les sites de rencontres, hein, draguer green, c'est-à-dire dans Elle. Cette semaine, les sites de niche sont effectivement devenus un phénomène. Alors d'abord aux États-Unis, puis ça arrive en France. Mektoub pour les musulmans, Andy Network pour les personnes atteintes de handicap, Geekmore pour les geeks, et bien les adeptes du bio, les végétariens, les véganes n'ont pas été oubliés. Alors vous avez le choix entre bioflirt, rencontre végétarien, Végé Love ou Green Lovers, des sites de rencontres dédiés à la communauté écolo. Alors, femme cherche homme des bois doté d'une sensibilité affûtée. Homme cherche elfe chevauchant une licorne blanche. Je vous jure que ça sort pas de l'imagination. Ce sont des vraies annonces. Ce n'est pas elle non plus qui l'a inventé.
C'est poétique.
Effectivement. Sur les profils des cœurs d'artichaut en mal d'amour, pas de photo de biceps saillants, ni un visage avec une moue duck face. Vous savez, mais une poule, une vraie, en train d'être câlinée, un cerisier en fleurs ou un potager. Voilà. Vous êtes célibataire vegan, vous avez envie de trouver chaussures en liège à votre pied. Eh bien, vous êtes inscrit sur. Pour être inscrit sur Green Lovers, il faut d'abord passer un green test. Ainsi, vous allez pouvoir préciser. Oui, mais si vous êtes du genre à embrasser les arbres, ou si vous êtes du genre à vous enchaîner aux arbres. On n'est pas tous pareils quand on est végane, on n'a pas tous les mêmes convictions. Alors, on parlait de niche plus tôt.
Tous les véganes ne s'accrochent pas aux arbres non plus. Hein,
mais... Voilà, exactement, c'est pour ça, il faut trouver végane, le végane qu'il vous faut. Un site comme Green Lovers a quand même du mal à concurrencer Mythique, il faut bien le dire, par exemple, et ses 11 millions de visiteurs mensuels, ils ne sont que 15 000 membres actifs sur Green Lovers. Mais ce genre de site de rencontres bio ou végane ressemble à un refuge pour tous ceux qui souhaitent fuir les préjugés. Alessandra, par exemple, témoigne « Je fais du yoga, je bois de l'eau tiède le matin. Je n'ai pas envie de justifier mon mode de vie face à un type qui utilise du déodorant de supermarché. »
Ah oui, là, on est sur un critère très précis. Ouais.
Voilà, partager les mêmes valeurs, un vieux corps de ferme, des arbres fruitiers, des tuniques en chanvre. Les militants verts et véganes se rencontrent sur des sites garantis écolo. Enfin, écolo, ils utilisent des data centers comme les autres.
Oui.
C'est dans Elle.
Et oui, c'est ça.
Voilà.
Draguer bio.
Draguer voilà. Bio. Draguer green.
Draguer green. C'est dans Elle. Alors moi, j'ai trouvé une nouvelle application mobile à installer pour écouter Europe 1. Et pas seulement, puisque c'est l'ensemble des radios françaises qui ont travaillé ensemble pour lancer une nouvelle application qui va permettre d'écouter 200 stations de radio, 600 web radios et plus de 100 000 podcasts. Donc vous l'installez sur votre téléphone ou votre tablette. Cette appli, elle s'appelle Radio Player, tout attaché. Et son lancement est relayé par Le Figaro. Alors ce matin, le gros avantage, c'est que vous pouvez écouter les radios absolument partout. Vous n'avez plus cette histoire de fréquence.
Ah oui. Ça va plus
grésiller. Fini la grésille, la voiture, la voilà radio qui grésille dans la cuisine ou dans la voiture dès que vous vous déplacez. Là, ça passe par Internet, donc pas de souci. Vous aurez accès à un Radio Player donc sur mobile, PC, sur les téléconnectés, sur les enceintes connectées. Et bientôt directement dans la voiture, parce que les constructeurs s'y intéressent. Les groupes BMW, Volkswagen et Volvo ont déjà signé des accords pour intégrer l'application directement dans le tableau de bord, dans l'autoradio. Comme ça, vous ne perdrez plus Europe 1 sur votre trajet sur l'autoroute. Vous l'aurez tout le long du voyage. La radio en France, c'est quand même 40 millions d'auditeurs chaque jour. Hein. On en est très fiers. 8 millions en ligne. Ça va continuer à se développer en direct et en différé, parce que d'ailleurs, sur cette application, vous pouvez aussi réécouter les émissions. Hop, vous vous levez un peu plus tard, grâce mat, mais vous pouvez quand même écouter le 5-7, voilà. Ou Nicolas Canteloup.
Oui.
Voilà.
En fait, les 100 ans de la radio cette année, me dit notre réalisateur Fabrice Laffitte.
Et bien voilà, joyeux anniversaire. Radio Player, cette application, on se demande pourquoi elle n'existait pas avant.
Oui,
mais désormais,
vrai.
Elle existe. On trouve toutes les radios dessus. Vous choisissez vos préférés. Vous pouvez zapper de l'une à l'autre. Enfin, le mieux, c'est quand même de rester sur Europe 1. Oui. Vous avez aussi l'application Europe 1, bien sûr. Téléchargeable, tout cela est gratuit. Martin, on termine avec vous.
Oui, avec un drôle de début de campagne électorale au Mexique, hein, ce candidat qui est arrivé dans un cercueil. Alors c'est le Huffington Post qui nous raconte ce premier meeting un peu insolite.
Dans un cercueil.
Dans un cercueil, exactement. Alors s'il a fait ça, c'est pour dénoncer les milliers de morts causées à la fois par la pandémie, mais aussi par les cartels de la drogue. Alors l'homme politique en question s'appelle Carlos Mayorga, il brigue un siège au Parlement régional de l'État du Chihuahua, c'est au nord du Mexique, hein, à la frontière avec les États-Unis. Et donc pour lancer sa campagne, il est arrivé dans un cercueil doré porté par des assistants en combinaison de protection et avec un discours bien rodé, on l'écoute.
Ils ont gardé le silence sur les niveaux élevés de la criminalité organisée. Ils ont gardé le silence sur la situation chaotique du Covid. Ils ont un peuple mort, une ville, une communauté, un État mort à cause de leur indifférence.
Et il parle comme ça dans son cercueil ?
Il parle comme ça dans son cercueil.
Depuis son cercueil.
Depuis son cercueil, tout à fait.
Vous imaginez la mise en scène, bon, discours un brin populiste, mais malgré tout qui s'appuie sur des faits. Hein.
Oui, le bilan de la crise sanitaire au Mexique est catastrophique. Plus de 200 000 morts, hein, c'est le troisième pays le plus touché, derrière les États-Unis et le Brésil. Et une gestion de la crise, hein, qui a parfois laissé à désirer, avec des restaurants qui sont restés ouverts. Et ces images que vous avez peut-être vues, hein, de milliers de touristes sur les plages à Cancun. L'autre sujet sur lequel Carlos Mayorga souhaite alerter, c'est la guerre contre la drogue, une guerre qui a fait plus de 300 000 morts en 15 ans et qui fait du Mexique un des pays les plus violents du monde. Pour preuve, hein, 2 mois des élections pour les parlements régionaux, élection à laquelle se présente Carlos Mayorga, 16 candidats ont déjà été assassinés.
Ah oui. Bon, alors voilà, lui fait cette mise en scène pour marquer les esprits.
Mise en scène macabre.
Mise en scène extrêmement macabre, effectivement, de ce candidat dans son cercueil. Merci à tous les deux, c'était le pressing du jour, 5h23.
Sébastien Krebs vous informe sur Europe 1.
Et nous sommes à Prades ce matin dans les Pyrénées-Orientales pour les doigts dans l'assiette. Bonjour Alex Thora.
Bonjour.
Bienvenue, vous êtes notre éleveur de porc. Comment ça va en ce moment ?
Eh bien écoutez, ça va très bien, si ce n'est qu'il fait assez froid chez nous. On est à moins 4 ce matin.
Ah oui.
Et pas puis hier et avant-hier aussi, donc il fait un peu frais.
Ouais,
et
on...
Europe 1, Sébastien Krebs.
Ils sont ressortis libres, le prêtre et l'ecclésiastique entendus hier dans le cadre de l'enquête sur une messe célébrée à Paris à Pâques sans geste barrière. Ils avaient été placés en garde à vue hier matin pour mise en danger de la vie d'autrui. La formation des policiers va être rallongée de 4 mois. Elle durera ainsi désormais 1 an, comme c'était le cas avant une réforme de 2016. Et puis l'Olympique Lyonnais qualifié pour les quarts de finale de la Coupe de France. Victoire hier 2-0 face au Red Star.
Écoutez le monde changer avec Sébastien Krebs sur Europe.
Lénaïque Monnier, nous allons donc à Toulouse.
Oui, à la rencontre du jeune Maxence, un passionné d'informatique depuis qu'il est tout petit et qui a inventé une application magique pour le corps enseignant. La Dépêche du Midi a dressé son portrait, vous allez être plutôt surpris. Nous parlons d'un jeune homme de 15 ans dont le père est prof. Détail important puisque tout commence au printemps dernier lors du tout premier confinement.
Alors de quoi s'agit-il ?
Alors Maxence a créé un bot, c'est ce robot hein, qui vous aide virtuellement. Le sien s'appelle Suivix. Il est associé à l'application de discussion Discord, celle qui permet aux profs de faire l'appel et de recenser les élèves connectés pendant les cours à distance. J'ai regardé l'interface, c'est effectivement très lisible. Une croix rouge si vous êtes absent, une encoche verte si vous êtes présent. Il n'y a rien d'extravagant, sauf que l'outil qui était proposé par l'Éducation nationale n'avait pas fait les choses aussi simplement. Le but, évidemment, ce n'est pas de dénoncer les absents, mais de repérer s'il y a des décrocheurs. L'une des grandes problématiques de l'Éducation nationale, Suivix, aujourd'hui est utilisé dans plus de 100 pays par plus de 3300 personnes.
Ah oui. Donc l'avenir de Maxence est tout tracé. Là.
Oui, alors il le dit lui-même à nos confrères de la Dépêche du Midi. Il veut travailler dans l'informatique. Il ne sait pas encore sous quelle forme. Le montage vidéo, ça l'intéresse. La création d'applications aussi, évidemment. Son CV, en tout cas, a tapé dans l'œil du Conseil départemental de Haute-Garonne qu'il a soutenu dans le cadre de son dispositif Initiative Jeunesse. Le lycéen a reçu 4000 euros de bourse. Un bon coup de pouce qui permet à Maxence de faire connaître un peu mieux son application, dont je rappelle le nom aux profs qui nous écoutent et qui vont reprendre les cours à distance d'ici quelques semaines après les vacances, c'est Suivix.
Suivix pour faire l'appel et qui est déjà utilisé dans 100 pays.
Exactement. 3300 enseignants qui sont déjà sur le coup.
Voilà. Bravo au jeune Maxence de Toulouse. Merci Lénaïque Monnier. À tout à l'heure pour les sports. 6h-10. C'est l'heure de regarder ce qui anime les réseaux sociaux avec vous, Martin Lange.
Oui, je vous entendais parler de Suvix, hein, ça pourrait être le nom d'un personnage d'Astérix et Obélix.
Oui, absolument.
Et d'ailleurs, je vais vous parler du casting 5 étoiles du nouveau Astérix et Obélix, justement. La chanteuse Angèle, le rappeur Orelsan et même le footballeur Zlatan Ibrahimovic. Ça, c'est pour les moins attendus, hein, ceux qui ne sont pas acteurs.
Zlatan, dans
Zlatan,
Astérix.
Exactement. Mais vous avez aussi Vincent Cassel, Marion Cotillard, José Garcia. Un vrai parterre de stars, hein, qui s'ajoute à Guillaume Canet et Gilles Lelouch, qui vont jouer les deux rôles titres. Hein, ça, c'était déjà connu. Astérix et Obélix. Alors en quoi ça concerne les réseaux sociaux? Eh bien parce que l'annonce de ce casting a été faite en grande pompe sur Instagram. Chaque acteur a publié son rôle hier sur son compte. Alors Angèle jouera Falbala, l'amoureuse d'Obélix. Pour Vincent Cassel, ça sera César. Marion Cotillard campera Cléopâtre. Et celui que vous attendez tous, hein, Zlatan Ibrahimovic, le célèbre footballeur, hein, jouera Antivirus, un soldat romain déjà vu à l'écran sous les traits de Jean-Paul Rouve.
Antivirus. Casting qui a fait réagir sur les réseaux?
Oui, entre enthousiasme, hein, et crainte aussi. Hein, il faut dire que les derniers opus, malgré des castings tout aussi prometteurs, ont été des flops. Le casting me fait peur, écrit Yas. La dernière fois qu'on en a fait des caisses sur le casting, c'était pour Astérix et les Jeux Olympiques. Je crois qu'on aimerait tous l'oublier, c'est de Vince. Plus drôle, hein, certains ont aussi détourné les publications Instagram pour inventer de nouveaux personnages. Emmanuel Macron qui pourrait jouer épidémiologique, hein, petite référence à ses connaissances supposées en la matière. Vous avez aussi la star du moment, hein, Pierre-Jean Chalençon qui jouerait Paul Naréfix, la ressemblance avec le chanteur n'a échappé à personne, ou encore j'organise pas de dîner gratis. Pas facile à dire, mais assez drôle, je dois dire. Pour revenir au film, hein, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, le tournage devrait commencer dans les tout prochains jours à Bry-sur-Marne, en région parisienne, sorti en salle l'année prochaine.
Vous auriez pu inventer un nom particulier pour Zlatan.
Zlatanix. Oui, après, antivirus, on peut tout imaginer. Peut-être qu'il va zlataner les virus. Enfin,
oui,
voilà.
Je pense que ça peut effectivement être drôle. Astérix sorti l'année prochaine. On n'a pas trop de date. Hein. Si la pandémie le permet, bien sûr, Astérix et Obélix, l'Empire du Milieu, qui aurait dû être tourné en Chine. Hein. D'ailleurs, Guillaume Canet avait accompagné Emmanuel Macron pour négocier ça il y a 2 ans pour organiser le tournage. Finalement, ça n'a pas pu se faire. À cause de la pandémie.
À cause de la pandémie et de raisons diplomatico-politiques également.
Martin Lange, chaque matin pour les réseaux sociaux. Merci, 5h05. L'histoire du jour de Christophe Ondelat se tient en 1985. Simon Yates et Joe Simpson, deux jeunes alpinistes britanniques, atteignent le sommet du Siula Grande au Pérou, c'est à plus de 6000 mètres. Mais la descente va tourner au drame. Joe se retrouve suspendu dans le vide, retenu à bout de bras par son compagnon. On de la raconte à 14h sur Europe 1. Vous avez l'histoire du jour dès maintenant, disponible en podcast sur europe1.fr. Europe 1. Et bonjour Fanny Agostini.
Bonjour Sébastien, bonjour à tous.
Notre planète dans un instant, à tout de suite.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.
Fanny Agostini est avec nous pour notre planète, des initiatives qui marchent pour améliorer notre environnement chaque matin avec vous. Fanny, vous vouliez pointer ce matin la fin d'une ère, la fin d'une forme de chantage, hein, qui finissait par favoriser la bétonisation.
Oui, alors le chantage est un mot bien choisi. Vous savez ce qu'il se passe quand un promoteur foncier vient toquer à la porte d'une collectivité qui lui refuse le permis de construire d'un centre commercial? Eh bien, le promoteur va voir ailleurs, tout simplement, et paf, les recettes fiscales du centre commercial vont chez le voisin. L'air de rien, c'est ce chantage qui alimente la construction de grands ensembles industriels et commerciaux, seconde cause d'artificialisation des sols derrière le logement. Mais les collectivités, ça y est, ne se laissent plus faire. Chapeautées par les régions, voilà que débarquent les SRADD, acronyme pour dire schémas régionaux d'aménagement de développement durable et d'égalité des territoires, qui amènent à harmoniser les politiques d'urbanisme. Le premier a été approuvé en 2019 dans la région PACA. Il ambitionne de diminuer de 50% l'artificialisation d'espaces agricoles et naturels.
Fanny, est-ce qu'en France on artificialise plus qu'ailleurs ?
Carrément, d'après France Stratégie, notre pays bétonne plus que ses voisins, avec 47 km² artificialisés pour 100 000 habitants, contre 41 en Allemagne, 30 au Royaume-Uni et en Espagne, ou 26 en Italie. Et depuis 1981, les surfaces artificialisées ont augmenté de 70% alors que la population n'a augmenté que de 19%. C'est vraiment un non-sens total de voir encore pulluler des projets immobiliers ou commerciaux quand 3 millions de logements et jusqu'à 13% des locaux commerciaux sont laissés vacants. 3 millions de logements vacants, juste comme ça pour vous donner une idée, c'est l'équivalent de 10 logements que l'on pourrait attribuer à chaque SDF en France.
Et en plus d'être un désastre écologique qui contribue au réchauffement, la bétonisation s'accompagne forcément d'une augmentation du trafic sur les routes.
Et oui, des centres commerciaux toujours plus excentrés, ça veut dire plus de trajets pour y accéder. Pourtant, la Convention citoyenne sur le climat demandait l'interdiction de la construction de nouvelles zones commerciales périurbaines. Au final, seules les surfaces de plus de 10 000 m² sont interdites, ce qui rend l'effort presque vain, puisque 80% des projets de surface commerciale sont sous ce seuil. Voilà un exemple d'une des propositions rejetées ou fortement amoindries de la part du gouvernement, ce qui ne présage rien de bon pour réellement restreindre l'artificialisation des sols en France. Sauf qu'en l'absence de réglementation forte de la part de l'État pour canaliser les constructions, la bétonisation a des jours florissants devant elle, et cela malgré les efforts des régions pour stopper le phénomène.
Merci à vous Fanny Agostini, notre planète chaque matin, juste avant 6h.
Europe Matin, le 5-7.
Sébastien Krebs.
Écoutez le monde changer.
Bon réveil et merci de nous rejoindre ce matin sur Europe 1. Nous sommes le vendredi 9 avril et nous étions les premiers à vous l'annoncer dès hier matin à la suppression d'un symbole des élites françaises. L'ENA va donc disparaître. Emmanuel Macron l'a confirmé hier soir. Elle sera remplacée par un nouvel institut du service public, promis comme plus ouvert. Alors comment assurer l'égalité des chances, la diversité des profils? Comment réinventer la façon de former ceux qui vont diriger nos administrations? Le regard ce matin de Boris Valbaume. Il est lui-même ancien énarque, mais il a créé une école très particulière pour former les dirigeants de demain. Il va nous donner sa vision tout à l'heure à 6h40. Tous vos rendez-vous habituels d'ici 7h, et notamment la partition d'Omblin Roche ce matin, la descente aux enfers d'une star mondiale. Britney Spears, dont la vie chaotique est retracée dans un documentaire choc diffusé sur Netflix, le mal-être d'une enfant star. Elle est toujours aujourd'hui placée sous la tutelle de son père. Le récit d'Omblin Roche tout à l'heure à 6h20. Laurent Cabrol, vous nous disiez que ça se radoucit,
ouais.
Mais ça se dégrade.
Bah oui, mais enfin, je crois qu'il est préférable pour beaucoup d'entre nous que ça se radoucisse, à la fois pour les agriculteurs qui malheureusement souffrent, les arboriculteurs aussi, et puis les jardiniers, n'oublions pas, on en reparlera. Moins 1 à Strasbourg en ce moment, 0 à Nancy, 2 à Brest, 3 à Bourges, il y a très peu de température négative, hein. 3 à Bourges, Rennes et Lille, 4 en banlieue parisienne, 5 à Paris, 6 à Nantes, 7 à Clermont, 9 à Lyon, 10 degrés à Marseille, et 17 degrés à Biarritz à l'heure où nous parlons.
Ah oui.
Le temps est orageux, c'est la chaleur qui vient d'Espagne, et c'est cette douceur qui va nous envahir. Alors, nous aurons 4 types de temps que je détaillerai tout au long de la matinale, savoir que la pluie, elle va se concentrer sur la Bretagne ce matin et l'embouchure de la Loire. Et puis dans la journée, Languedoc, Roussillon, Cévennes sur le bassin méditerranéen. Et puis le ciel restera voilé enfin sur la région parisienne, le Nord, la Champagne-Ardenne, la Franche-Comté, Rhône-Alpes, la Provence, la Côte d'Azur et la Normandie. Quand je dis voilé, cela veut dire que nous n'aurons pas d'intempéries. Sur Paris, je pense que les intempéries arriveront vers entre 17 et 20 heures. Voilà pour l'essentiel, mais demain et après-demain, là, nous aurons pas mal de pluie.
A tout à l'heure, merci Laurent Cabrol.
Europe Matin, le 5-7. Sébastien Krebs.